Elle est canicule. Ces périodes prolongées de chaleur extrême qui mettent à rude épreuve nos corps, nos infrastructures et nos écosystèmes deviennent de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique. Partout sur la planète, les températures urbaines battent des records. De Kinshasa à New York en passant par Shanghai, la canicule n'est plus un phénomène isolé. Comment expliquer que nos villes deviennent des foyers de chaleur aussi extrêmes?
C'est le fameux effet d'îlot de chaleur urbain. Dans les grandes villes, le béton, l'asphalte et la densité des constructions emmagasinent la chaleur le jour et la restituent la nuit, ce qui accentue considérablement les pics de température. À New York, par exemple, une étude menée par l'Université Columbia montre que la température en plein centre-ville peut dépasser de plus de 7 degrés Celsius celle des zones périphériques lors des épisodes de canicule.
L'intensité de ce phénomène est-elle homogène à l'échelle mondiale? Ou bien varie-t-elle en fonction de facteurs comme la densité urbaine, les matériaux utilisés, la végétalisation ou encore les politiques climatiques propres à chaque continent?
Il existe en effet des différences majeures selon les métropoles. À Kinshasa, les coupures d'électricité fréquentes privent des millions d'habitants d'accès à la climatisation ou à la ventilation, ce qui aggrave considérablement l'exposition à la chaleur extrême. À Shanghai, la situation est différente, mais tout aussi critique. La ville doit jongler entre épisodes de sécheresse et inondations récurrentes, ce qui accentue l'instabilité thermique et met à rude épreuve ses systèmes de gestion des eaux et de refroidissement urbain. Et si les contextes diffèrent, une constante demeure, partout, des infrastructures sous-dimensionnées ploient sous la pression des canicules répétées, révélant les limites d'adaptation des villes face à l'urgence climatique.
Au-delà de la gêne, la chaleur a des impacts graves sur la santé. Les hôpitaux new-yorkais ont recensé une hausse des déshydratations, mais qu'en est-il sur le plan psychologique, notamment concernant l'éco-anxiété?
L'éco-anxiété explose, surtout chez les jeunes urbains. D'après l'OMS, 70 % des citadins disent ressentir du stress face à l'impuissance climatique. Ce n'est pas une pathologie, mais un signal d'alarme face à la menace réelle. Les nuits blanches et la fatigue chronique aggravent l'angoisse collective.
Est-ce que cette éco-anxiété varie selon le niveau d'exposition ou d'information?
Oui. Elle est souvent plus aiguë chez ceux qui subissent personnellement les coupures d'eau ou d'électricité, comme à Kinshasa, mais aussi chez ceux qui sont très informés du décalage entre la gravité de la situation et l'inaction politique.
Un aspect frappant, c'est l'inégalité de la souffrance face à la chaleur. Peut-on parler d'une fracture climatique qui traverse nos villes?
Absolument. Les populations les plus fragiles paient le prix fort. À Kinshasa, les quartiers populaires suffoquent sous des toits de tôle sans climatisation. À New York, les refuges thermiques sont rares dans le Bronx, alors qu'ils sont nombreux à Manhattan. C'est une question d'accès à l'énergie et à la santé.
Les statistiques le confirment-elles?
Oui. Selon un rapport de l'ONU, dans les grandes métropoles, les décès liés à la chaleur sont 2 à 3 fois plus fréquents dans les zones défavorisées. Cette injustice cristallise le sentiment de trahison et nourrit l'éco-anxiété.
Revenons sur la notion d'éco-anxiété. Certains la qualifient de caprice urbain. Mais n'est-ce pas plutôt une réaction saine à une menace concrète?
C'est une réponse rationnelle. L'éco-anxiété, loin d'être une faiblesse, traduit une conscience accrue du danger. En psychiatrie, on parle d'une réaction adaptée à un stress environnemental. Elle alerte la société sur la gravité de la situation, comme une douleur signale une blessure.
Mais comment transformer cette anxiété en action constructive?
C'est le défi. Les mouvements citoyens s'en emparent. Ils transforment l'angoisse en engagement, en plaidoyer, en solidarité. L'éco-anxiété devient alors un moteur politique.
Les rapports scientifiques s'accumulent, les alertes se multiplient, et pourtant l'action politique reste timide. Pourquoi ce fossé insupportable entre ce que nous savons et ce que nous faisons, alors que chaque année perdue nous rapproche du point de non-retour? Pourquoi ce fossé persiste-t-il malgré l'urgence?
Ce fossé persiste parce que les logiques économiques dominantes continuent de dicter l'agenda politique, bien plus que l'urgence climatique. Dans les pays riches, on maintient les subventions aux énergies fossiles, on protège les intérêts des grandes industries et on privilégie la croissance immédiate, quitte à hypothéquer l'avenir. Dans les pays en développement comme la RDC, la situation est encore plus criante. On nous demande de préserver nos forêts, essentielles pour réguler le climat mondial, tout en nous laissant sans financement solide, sans alternative économique et souvent sans infrastructure adaptée. Pendant ce temps, les multinationales exploitent les ressources, cobalt, pétrole, bois, avec la bénédiction tacite des institutions internationales, et les profits s'évaporent loin des populations locales. Ce décalage nourrit une double injustice écologique et sociale.
Les citoyens perçoivent-ils cette inaction comme une forme de trahison?
C'est un puissant facteur d'éco-anxiété. La colère monte. Les gens voient bien que les solutions existent, mais qu'elles sont freinées ou vidées de leur sens par des arbitrages politiques à courte vue. Les pays les moins responsables du dérèglement climatique, souvent ceux qui abritent les plus grands puits de carbone, subissent les impacts les plus violents sans bénéficier des moyens nécessaires pour s'adapter. Les citoyens voient bien que les rapports scientifiques sont ignorés. À Kinshasa, la déforestation continue. À New York, on débat de limiter la climatisation sans refondre les infrastructures. Ce décalage alimente un ressentiment profond.
Comment passer de l'angoisse à l'action? L'éco-anxiété peut-elle devenir le moteur d'une transformation profonde de nos sociétés?
C'est indispensable. En transformant la peur en exigence politique, nous pouvons impulser des politiques ambitieuses, repenser l'urbanisme, arbitrer entre profit et survie et exiger des institutions qu'elles agissent. Pour les Congolais, l'enjeu est encore plus crucial. Construire par nous et pour nous, sans attendre des solutions importées, en repensant nos villes, nos ressources et nos priorités. Seules des actions systémiques immédiates peuvent limiter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique.
Ces actions locales peuvent-elles réellement changer la donne à grande échelle?
Partout, les logiques économiques l'emportent sur la survie collective, comme dans les économies avancées où le maintien des subventions aux énergies fossiles reste prioritaire, malgré les alertes scientifiques. Les institutions semblent gérer la catastrophe plutôt que la prévenir, ce qui mine la confiance publique. Mais pour les pays en développement, la situation est encore plus critique. Ils abritent certaines des plus grandes forêts du monde, essentielles pour réguler le climat, et pourtant aucun mécanisme concret ne garantit leur protection ni ne finance leur préservation. On leur demande de sacrifier leur croissance au nom de la planète, mais aucune alternative durable ne leur est offerte. Ce double standard alimente un profond ressentiment et met en lumière l'absence d'une véritable justice climatique.
Nous entrons dans une ère où la canicule deviendra la norme. Comment transformer cette anxiété en levier de changement?
En reconnaissant l'éco-anxiété comme boussole, pas comme fardeau, elle pousse à exiger des politiques plus radicales, à refuser les compromis mous. C'est un appel à repenser nos villes. Végétalisation massive, rénovation thermique, transport propre.
Mais comment convaincre les décideurs d'opérer ces mutations profondes?
En amplifiant la mobilisation citoyenne, en s'appuyant sur des études, les chiffres parlent parfois plus fort que les discours. Kinshasa semble en retard par rapport à New York ou Shanghai dans la gestion des vagues de chaleur, parce que la question climatique n'y est pas encore considérée comme une priorité politique et que les mécanismes de gouvernance restent fragiles. Alors que les températures y dépassent régulièrement les 40 du 4C et que les coupures d'électricité aggravent la situation, aucune stratégie d'adaptation cohérente n'a été mise en place. Les budgets annoncés sont souvent flous, parfois engloutis dans des circuits opaques, et les rares programmes officiels peinent à dépasser le stade des slogans.
Pour conclure, est-il vraiment possible de faire de l'éco-anxiété une force positive et collective?
Oui, si elle est partagée et canalisée. L'histoire montre que les grandes transformations naissent souvent d'un sentiment d'urgence collective. Si la peur est mise en commun, elle devient action, solidarité, projet de société. Sinon, elle risque de se transformer en résignation.
Quel message à nos auditeurs qui se sentent impuissants face à la chaleur et à la crise?
Si vous vous sentez impuissant, c'est parce que ceux qui devraient agir ne le font pas. Les gouvernements temporisent, les multinationales exploitent et pendant ce temps, nos villes brûlent. Mais l'impuissance disparaît quand on se rassemble. Votre peur est une arme. Transformez-la en exigence, en désobéissance, en mouvement. La chaleur est déjà là, mais notre résignation, elle, n'a rien d'inévitable.